Alors, chers amis, nous pensons tous que nous faisons des progrès, mais nous ne savons pas, où nous allons et dans les choses qui comptent vraiment. Eh bien, nous ne faisons pas de progrès. Je pense qu'il en est ainsi, entre autres, dans le domaine de la science, de la civilisation, de la connaissance et de la technologie. Et là, ma trois grands ennemis, le péché, la souffrance et la mort, vous pouvez penser que nous en avons d'autres, mais nous n'avons pas d'autres ennemis que le péché, la souffrance et la mort. Permettez-moi de vous poser une première question ce matin. À la lumière de ce que nous appelons le progrès, qu'est-ce que la civilisation a fait comme progrès en ce qui concerne le péché? Bonne question à se poser, n'est-ce pas? La seule chose que nous avons fait concernant le péché, c'est que nous avons trouvé le moyen de le redéfinir. Nous avons mis de nouvelles étiquettes sur les mêmes vieilles bouteilles de poison. Le voleur est devenu un imposteur et l'ivrogne est devenu un alcoolique. Quelqu'un qui vole à l'étalage, on ne dit pas que c'est un voleur à l'étalage, on dit qu'il souffre de kleptomanie. Vous avez déjà entendu ce mot-là, oui? Kleptomanie, voilà. Alors, maintenant, c'est des maladies pour tout. On a redéfini, finalement, ce vieux problème du péché. On n'appelle plus quelqu'un qui vit dans le péché un pécheur, mais plutôt quelqu'un qui remet en question les valeurs morales de notre société. En fait, nous nous sommes entraînés vers le fond comme le remous le fait avec un objet quelconque, en nous moquant du danger que cela peut représenter. Permettez-moi de vous poser une deuxième question, celle-ci concernant la souffrance. Avons-nous fait des progrès en ce qui concerne la souffrance des êtres humains? Absolument pas. Le suicide a atteint des proportions épidémiques. Les institutions psychiatriques sont remplies, voire surpeuplées, et nous ne savons plus quoi faire avec ces gens qui ont vu leur esprit être brisé, leur espoir anéanti et leur cœur être blessé par une société soi-disant de plus en plus civilisée. Nous ne faisons aucun progrès en ce qui concerne le péché ni ce qui concerne la souffrance, et nous ne faisons sûrement pas de progrès pour ce qui concerne la mort. Depuis qu'Adam et Ève ont vu leur fils Abel être assassiné par son frère, nous sommes tous affectés par la mort et nous essayons de la rendre plus agréable, voire même plus attrayante. Je ne dis pas dans le milieu chrétien, mais dans le monde, maintenant, la mort, c'est plus célébré en noir, c'est célébré en blanc. Et on essaye, finalement, d'embellir, de rendre la mort plus attrayante. En Amérique, ce que nous appelions autrefois une bière s'appelle maintenant un cercueil. Le croque-mort est devenu un entrepreneur de pompes funèbres. Et si vous allez en Amérique, souvent, ce n'est plus marqué le cimetière, mais c'est devenu un parc commémoratif. Mais cela n'empêche pas les gens de mourir pour autant. Quelles sont les réponses de notre société face au péché, face à la souffrance et à la mort que doivent affronter les êtres humains? Notre société, frères et sœurs, n'a pas de réponse à ces trois questions et nous ne pouvons pas trouver une réponse adéquate en dehors du message de l'Évangile. Vous êtes amen à ça ce matin. Tournez avec moi dans Galates chapitre 1. Nous allons lire les versets 6 à 12. Je l'ai mis dans une version un peu paraphrasé pour que ce soit plus facile pour ceux qui ne sont pas tellement habitués avec le jargon évangélique. Mais on va regarder ensemble ce que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1, versets 6 à 12. J'aurais aimé regarder avec vous 5 points ce matin. Le temps file tellement vite, on va en regarder seulement 4. Et on va en avoir suffisamment à travers cet enseignement que Paul veut nous donner pour nous encourager, pour nous fortifier et de voir aussi qu'il y a un combat spirituel incroyable qui est en marche, en route. Alors, on parle du monde spirituel, c'est un monde qu'on ne voit pas, mais on sait très bien, la Bible nous parle de notre adversaire, le diable, qui est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est là, il continue à s'attaquer non seulement aux chrétiens, mais Paul nous dit aussi que le diable, il s'attaque au message pour le pervertir, pour le changer, pour le transformer, afin de séduire les gens et les empêcher de venir à la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Voilà ce que Paul dit, versets 6 à 12. Chapitre 1, versets 6 à 12. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu, par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. En d'autres mots, Paul est en train de dire, je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de Dieu, qui vous a appelé par la grâce du Christ, et vous, vous regardez à une autre bonne nouvelle. En réalité, il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Et le mot grec ici dit « et qui veulent vous modifier, et qui veulent modifier, changer, transformer l'évangile de Jésus-Christ ». Puis il continue au verset 8 en disant « eh bien, si quelqu'un, même si c'était nous, un ange venant du ciel, vous annonçant une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit anathème », ça veut dire quoi anathème? Qu'il soit maudit, qu'il soit damné. Paul est sévère avec le message de l'Évangile. Pourquoi il est sévère? Parce qu'il sait que c'est le seul moyen d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est le seul moyen de passer l'éternité dans le ciel. Et il sait que le message de l'Évangile de Jésus-Christ, c'est le seul message qui ouvre la porte du ciel. Est-ce que je recherche maintenant la faveur des hommes, dit-il? Non, c'est celle de Dieu que je désire. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, l'Évangile qui est la bonne nouvelle que je vous ai annoncée ne vient pas de l'homme. C'est-à-dire que ce n'est pas une invention d'homme. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas moi qui l'ai inventé non plus. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. C'est Jésus-Christ qui me l'a révélé. Et la plupart des théologiens, on est d'accord pour dire que Jésus-Christ a révélé cette bonne nouvelle sur le chemin de Damas, lorsqu'il a arrêté Paul qui allait persécuter les chrétiens. Alors nous, on a un chapitre de cette rencontre avec Jésus-Christ dans le livre des Actes, mais on peut être certain que ça a probablement duré plusieurs heures, cette rencontre avec le Seigneur Jésus, et que le Seigneur, Paul qui était un pharisien, eh bien le Seigneur l'a aiguillé sur une autre voie, celle qui conduit au salut. On sait ce qui est arrivé avec l'apôtre Paul. Paul est devenu vraiment un défenseur de la foi chrétienne et aussi un grand évangéliste et un grand docteur. Et Paul mentionne dans ce texte que le diable a tenté de pervertir l'évangile de Jésus-Christ dès le début. D'ailleurs, l'épître de Jean, si vous lisez la première épître de Jean, c'est une épître qui a été écrite pour confronter les gnostiques, qui étaient déjà une hérésie chrétienne à l'époque, avant même que l'apôtre Jean meure, une hérésie qui cherchait finalement à diminuer la divinité de Jésus-Christ. Et il ramène les chrétiens à l'ordre pour leur dire, écoutez, si vous vous éloignez de ce message, vous êtes perdus. Vous vous êtes perdus. Parce que les gnostiques disaient qu'on pouvait vivre dans le péché, qu'on pouvait rester comme on était avant. Il n'y a pas de problème. La grâce, source de salut pour tous les hommes, eh bien, la grâce, on s'en servait comme étant une licence pour pécher. Et Jean, il est très radical dans son épître. On a vu ça à l'étude biblique pendant 2 ans. Jean, il est très radical au point de dire à la fin, dans 1 Jean chapitre 5, verset 17, « Je ne veux pas que vous priez pour un frère qui a commis un péché qui mène à la mort. » Il est très radical, Jean, dans ce domaine-là. Alors, quand on a la grâce, on a reçu la grâce de Dieu qui conduit au salut en Jésus-Christ, qui nous donne cette nouvelle espérance en Jésus-Christ, eh bien, en principe, cette grâce, non seulement elle nous sauve, mais le mot grec pour sauver, c'est « libérer ». Alors, des fois, je demande aux gens, qu'est-ce que ça veut dire que tu es sauvé? La personne me dit, je suis chrétien, je suis sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es sauvé? Qu'est-ce que ça veut dire que tu es sauvé? Je m'en vais au ciel. Ce n'est pas ce que ça veut dire, le mot sauvé. Le mot sauvé, ça veut dire que tu es libéré d'une condamnation qui pesait sur toi à cause de ton péché. Il y avait une condamnation. La loi te condamnait. Tu as été libéré. Et c'est à la croix que tu as été libéré. Tu as été libéré pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi, qui a pris sur lui ton péché, qui a accepté de prendre cette condamnation que tu méritais, et en retour, eh bien, tu reçois, tu es reconnu juste aux yeux de Dieu. Ça, c'est le message évangélique. C'est le message évangélique. Tu es libéré non seulement de la condamnation, tu es libéré du pouvoir que le péché exerçait sur toi, c'est ça être sauvé. Tu es libéré aussi du monde, de la pression que le monde te mettait sur toi, la pression que le monde mettait sur toi, tu en es libéré. Tu es libéré de l'esclavage du monde, libéré de l'esclavage du péché, libéré de l'esclavage du diable aussi qui cherchait qu'à t'amener à vivre, à baigner dans la saleté. Quand vous voyez un grand boisson sur la rue qui se vautre à terre, des gens de 35, 36 ans qui ont des cirrhoses du foie, qui sont à moitié habillés dans des froids épouvantables à cause de la boisson, à cause de la drogue, cœur de Dieu est attristé, mais il y en a un qui se réjouit, c'est le diable. Ouais. Regarde Dieu, ce que je fais avec ta créature. Regarde Dieu, dans quel état tu l'as. Tu l'as créé pour qu'il te glorifie. Regarde, ça glorifie ça. Ouais. Et le Seigneur, à la croix, il nous délivre de ces choses. On peut le louer ce matin. On peut l'adorer. On a toutes sortes de... Je trouve qu'on a un esprit, un grand esprit de timidité pour louer le Seigneur dans nos moments de louange. peux crier au Seigneur, « Seigneur, tu m'as délivré de ça, quoi. Tu m'as délivré de ma misère. Seigneur, j'étais tellement désespéré un jour que j'ai voulu me tirer, j'ai voulu me suicider. Et Seigneur, tu es venu à mon secours, tu as entendu le cri de mon âme et tu m'as délivré. » On a des beaux sujets. Pourquoi on prend ce temps de louange? Ce n'est pas pour entendre des belles voix. C'est pour qu'à travers ce que vous allez donner comme témoignage, quelqu'un d'autre qui vit peut-être ce que vous avez vécu dans le passé, qui vit peut-être des drames personnellement, puisse être touché par la grâce de Dieu. Pour ça qu'on loue le Seigneur. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans l'Église qui est là, qui vient ce matin, qui est désespéré parce qu'on ne connaît pas sa situation. Il est gêné, il ne veut pas la raconter à personne. Il est là, il n'y a pas d'espoir pour lui. Et là, il rentre, il vient ici, il entend le culte, il entend les chants, et là, il est touché dans la louange. Parce qu'à travers la louange, il se reconnaît à travers le témoignage de quelqu'un, et il dit, il y a une source d'espoir pour moi, il vient de louer le Seigneur, il a été libéré par la puissance du nom de Jésus. Amen. Oui, on est gêné de louer le Seigneur. Il faut le faire. Oh, ça fait partie de notre ministère. La louange, l'adoration. Et c'est une grâce que Dieu nous fait. Paul mentionne dans ce passage que le diable a tenté de pervertir l'évangile de Jésus-Christ. Et de quelle façon s'y prend-il pour pervertir l'évangile qui sauve? Il pervertit l'évangile de la grâce parce que nous appelons l'évangile social. Plusieurs églises n'enseignent plus aux gens comment être pardonnés et sauvés, mais elles enseignent plutôt aux gens à pratiquer le bien et à faire de bonnes choses, à nourrir les sans-abri, à vêtir ceux qui sont nus et à prendre soin des malades. Toutes ces choses sont bonnes en soi, frères et sœurs, et nous devons les pratiquer, mais ce n'est pas là l'Évangile qui sauve. Si vous faites ces choses et que vous ne prêchez pas l'Évangile, tout ce que vous faites, c'est de soulager la misère humaine, mais cela n'empêchera pas les gens d'aller en enfer, parce que ce n'est pas l'Évangile qui sauve. Après tout, nous ne sommes pas appelés à vivre sur la terre éternellement, n'est-ce pas? Nous pouvons remercier Dieu pour l'œuvre sociale, mais l'Évangile social n'existe pas, il n'y a seulement qu'un Évangile qui sauve. Et c'est l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Marc, j'ai amené ma Bible en français courant. Dans Marc au chapitre 1, je trouve ça bien comment c'est écrit ici. Et je trouve que Marc, en tout cas, il nous met vraiment tout de suite sur les rails. Il dit, ici commence la bonne nouvelle qui parle de Jésus-Christ. Amen. La bonne nouvelle, ce n'est pas Jacques Hudon. La bonne nouvelle, ce n'est pas l'Église de Dlin. La bonne nouvelle, c'est celle qui parle de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'elle sauve, parce qu'elle délivre. Elle délivre. On n'a pas à remporter des victoires sur le péché. Christ a déjà remporté la victoire. Le problème, c'est qu'on ne rentre pas dans la victoire que Christ a remportée sur la croix. Et quand on ne rentre pas dans cette victoire, on lutte par nos propres forces et on tombe. Et ça fait plaisir à l'adversaire. Tu as mis ta confiance en Christ, ça a changé quoi dans ta vie? Oui, parce qu'on n'a pas compris que c'est sur lui, sur sa victoire qu'on doit s'appuyer. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Et ça, il y a des chrétiens qui viennent au Seigneur et qui restent toute leur vie au même niveau. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais saisi cette notion de la victoire remportée par Christ à la croix pour tous ceux qui croiraient en lui. Et on en a parlé aussi à l'étude biblique pendant des mois. En Christ, en étant uni en lui, je suis victorieux. En étant uni en lui, je peux vaincre le péché. En étant uni en lui, je peux vaincre le monde. En étant uni en lui, je peux vaincre la tentation. En étant uni en lui, je peux vaincre le malin quand il vient m'agacer. Amen! C'est vraiment, vraiment important. On en a parlé il y a 2-3 semaines à l'étude biblique. Tout ce qu'on retient de la croix, c'est que Christ est mort pour nos péchés, on est pardonné. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et on se limite au pardon. Mais non, on a été libéré. Libéré, c'est ce que ça veut dire, sauvé. Libéré. C'est important qu'on s'accapare ces choses-là, qu'on s'empare de ces promesses. Il y a un autre moyen que le diable a utilisé pour pervertir l'Évangile de Jésus-Christ, et c'est à travers le mouvement du Nouvel Âge qui véhicule l'idée, en fait, que vous allez vous réincarner tant et aussi longtemps que vous n'arriverez pas à atteindre un stade ou un état de perfectionnement idéal. Nous pouvons trouver cela ridicule et pourtant nous retrouvons des gens qui fréquentent nos églises aujourd'hui et qui ne connaissent pas le vrai message de l'Évangile. Des gens qui ont été endoctrinés à faire de leur mieux afin de pouvoir espérer entrer un jour au ciel, mais qui ne sont malheureusement pas sauvés. Ce sont des gens qui sont matériellement riches, mais qui sont spirituellement pauvres, parce qu'ils ne connaissent pas l'Évangile de Jésus-Christ. En quoi consiste donc l'Évangile de la grâce? Quel est l'Évangile de Jésus-Christ qui sauve? À partir de ces 5 versets, j'aimerais énumérer 4 points ce matin. On va se limiter à 4, comme je l'ai dit au début. J'aimerais que vous réalisiez jusqu'à quel point Satan s'oppose à l'Évangile. Versets 6 et 7, ici dans Galates. Satan a combattu l'Évangile à l'époque de l'apôtre Paul et il continue encore aujourd'hui à combattre l'Évangile. Lisons encore une fois le verset 6. « Je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de Dieu, qui vous a appelé par la grâce du Christ et vous, regardez et vous, regardez à une autre bonne nouvelle. » En réalité, dit Paul, il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent modifier, changer ou pervertir l'évangile de Christ. Satan n'a pas la capacité de créer les choses, frères et sœurs. Tout ce qu'il peut faire, c'est de prendre les choses que Dieu a créées, le tordre et le pervertir. Satan est un maître dans l'art de pervertir les choses et de perdre les gens. Dieu a créé toutes choses et le péché est une perversion de ce qui est bon. Dieu a dit, tout ce qu'il a créé, c'était bon. Et Satan, tout ce qu'il fait, c'est de pervertir tout ce que Dieu a créé qui était bon. Plutôt que de nier l'Évangile, Satan pervertira celui-ci parce que si vous acceptez son Évangile satanique, alors vous ne verrez jamais votre besoin d'entendre le véritable Évangile qui parle de la personne de Jésus-Christ. Il ne cherche pas à changer tout le message de l'Évangile, mais simplement en tordre le sens. Et à ce niveau, il fait un excellent travail. Frères et sœurs, quand les gens viennent vous témoigner, si vous ne trouvez pas ça dans la parole, vous rejetez ça. Les nouvelles manifestations, des témoignages qui n'ont ni queue ni tête, vous devez rejeter ça. Ça, c'est le diable qui vous envoie quelqu'un pour vous séduire et vous éloigner de l'espérance. Il y a des gens qui ont été éloignés de l'espérance qu'ils avaient en Jésus-Christ pour s'accrocher à des doctrines de démons. Quand je lis sur Internet qu'un chrétien qui est descendu en enfer et qui est allé là pendant 25 minutes pour ressortir de l'enfer et nous raconter aux gens ce qui se passe pour pas qu'il y aille, bien, ce n'est pas biblique, ça. Il n'y a pas encore personne en enfer. Personne n'est en enfer. Ceux qui meurent, qui ne connaissent pas le Seigneur, ils s'en vont dans le séjour des morts en attente du jugement dernier. Tandis que les chrétiens, depuis le malfaiteur à la croix, eux, ils s'en vont directement au paradis, à côté de Jésus-Christ. Mais il n'y a personne qui va en enfer. Et quand vous lisez Apocalypse, le premier qui va y aller, c'est le diable. Le diable et ses démons. Alors ça, c'est un mensonge. Et les gens croient ce mensonge, pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la parole, ils ne la connaissent pas. Et ce monsieur, je ne dirais pas ce monsieur, mais cette personne qui raconte, qui témoigne, qui est allée en enfer pendant 25 minutes, eh bien, on l'invite dans différents milieux chrétiens, on l'invite à venir rendre son témoignage, à venir raconter des fables, et les gens accrochent après ça. L'Évangile, ce n'est pas de parler du diable, l'Évangile, c'est de parler de Jésus-Christ. Le diable, il ne délivre pas, le diable, il nous empoisonne la vie, puis le diable, il nous maintient captifs. Il nous met dans ses chaînes, il nous garde captifs. Ça, c'est le but du diable. Et le Seigneur, il fait tomber nos chaînes. Le Seigneur, il nous libère. La parole nous dit, libère les captifs. Chers amis, pour ce qui concerne la vérité de l'Évangile, il ne peut n'y avoir aucun compromis avec la vérité. Regardez ce que Paul dit dans les versets 8 et 9. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. En d'autres mots, Paul dit, nous vous l'avons déjà dit, nous vous le répétons encore une fois. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Paul ne faisait aucun compromis avec le message de l'Évangile parce qu'il savait que Satan cherchait à pervertir ce message du salut qui se trouve en Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit au verset 7. Il n'y a pas d'autre évangile. Le message peut ressembler à l'Évangile, mais il n'y en a pas d'autre. Je le dis une fois encore, il y a beaucoup de gens dans nos églises qui n'ont vraiment aucune idée de ce qu'ils croient. Un jour, un homme dit à une femme, « Et vous, en quoi croyez-vous? » Elle lui répondit, « Moi, je crois en ce que mon Église croit. » »« Et en quoi votre Église croit-elle? » demanda l'homme. « Eh bien, mon Église croit ce que je crois, et nous croyons la même chose. » Les gens n'ont aucune idée de ce qu'est l'Évangile de Jésus-Christ. Et ils ne pourraient pas vous expliquer la vérité concernant l'Évangile si vous leur demandiez. Frères et sœurs, il n'y a qu'une seule façon pour aller au ciel. Et c'est à travers l'Évangile de Jésus-Christ. Vous dites amen à ça ce matin. Et la première chose que nous venons de nous rappeler, et que Paul veut nous rappeler, c'est que Satan s'oppose à l'Évangile de Jésus-Christ en enseignant un autre Évangile. Entre autres, que quand les gens sont morts, quand il arrivera le jugement dernier, Dieu donnera une dernière chance à toute la population mondiale de pouvoir se repentir. Ça, c'est un faux évangile. La Bible est claire, quand on connaît la parole nous dit, il n'est permis qu'à l'homme de vivre qu'une seule fois, après vient le jugement. Il n'y a pas une deuxième chance de l'autre côté, c'est maintenant qu'on doit préparer notre éternité. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Deuxième chose, deuxième vérité, j'aimerais voir avec vous rapidement, dès le début, c'est Dieu qui a pensé à nous faire connaître l'Évangile. Versets 11 et 12, nous dit l'apôtre Paul. Paul parle de cet Évangile, il dit, « Je vous déclare, frère. » Le verbe « déclarer » que Paul utilise ici signifie « je vous fais savoir, je veux vous faire savoir quelque chose, que l'Évangile qui a été annoncé par moi ne vient pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a révélé. » D'où nous vient l'Évangile, frères et sœurs? L'Évangile, il vient d'en haut. Il vient pas d'en bas, il vient d'en haut. C'est Dieu qui nous l'a transmis, à travers les hommes qui l'ont choisi. Il vient du Dieu Tout-Puissant. L'Évangile, ce n'est pas une invention d'homme, c'est Dieu qui l'a révélé à l'homme. Trop souvent, nous prenons la parole de Dieu, nous commençons à raisonner humainement, parlant ce que nous lisons, apportant un jugement, et nous finissons par dire quoi? Eh bien, je ne suis pas convaincu que c'est le message, que ce message-là veut... Je ne suis pas convaincu que ce passage-là veut dire ça. Je ne trouve pas ça logique qu'il y ait un seul chemin à suivre pour être sauvé et que tous les autres chemins soient mauvais. Phrase ça, j'entends ça de chrétiens qui fréquentent nos églises. Parce qu'on essaie de raisonner les Écritures. Alors, qu'arrive-t-il? Eh bien, on essaie de se montrer plus intelligent que Dieu et on finit par croire le contraire de ce que la parole de Dieu enseigne. Et si cela ne suffisait pas, nous lisons la parole de Dieu en y mêlant nos sentiments, et là, il n'y a plus rien qui y va. Il n'y a plus rien qui y va. Nous disons, je ne sens pas que c'est ce que veut dire ce passage. Je ne sens pas. Chers amis, je le dis respectueusement. Ce n'est pas ce que nous pensons, ce que nous ressentons qui compte, c'est ce que Dieu dit qui compte. Ce n'est pas ce que vous sentez qui est important pour le Seigneur, c'est ce que la parole de Dieu dit. Elle devrait faire autorité dans chacune de nos vies. Ne vous y trompez pas, les hommes ne rejettent pas l'Évangile parce qu'il se contredit, mais parce qu'il les contredit. Les gens ne rejettent pas l'Évangile parce qu'elle se contredit, parce que le message se contredit. Les gens rejettent l'Évangile parce qu'elle les met en lumière ce qu'ils sont et parce qu'elle les contredit. C'est pour ça qu'ils rejettent l'Évangile. Moi, ça me fait sourire quand des gens me disent, écoute, tu lis la Bible, toi, c'est épouvantable ce livre-là, hein? Ah, t'as-tu vu le paquet de mensonges qu'il y a là-dedans? Première question, j'ai dit, moi, tu l'as lu combien de fois? Ah, ben, je ne l'ai pas encore lu, hein? Mais, porte pas de jugement sur ce que tu n'as jamais lu, hein? Ouais. Pourquoi les gens cherchent des excuses? Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont confrontés. Et Jésus nous dit dans Jean chapitre 3, les versets 14, 15 et 16, pourquoi les hommes rejettent l'Évangile? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Et ils ne veulent pas que leurs œuvres soient mises en lumière. Mais Jésus est vrai, vraiment, il est vraiment clair. Heureusement qu'on a un Dieu qui est tranchant. Chers amis, nous devons comprendre que la Bible est d'origine divine, et ce, du début jusqu'à la fin. On n'a pas à chercher un autre évangile qui soit plus récent, plus moderne, et qui serait adapté à notre époque. Paul dit dans les versets 8 à 9, « Si quelqu'un dit qu'il a reçu un nouvel évangile ou une nouvelle révélation, et qu'il dise, « Écoutez, j'ai reçu un nouveau message de Dieu. » Paul dit, « Ne le croyez pas. » Frères et sœurs, c'est un ange qui se tenait devant vous ici ce matin en avant et qu'il vous disait, « Mesdames et messieurs, j'ai été envoyé par Dieu et vous êtes les premiers adelins à connaître le changement que le Seigneur a apporté à son évangile afin que vous compreniez mieux l'évangile. » Paul dit qu'il soit maudit. Imaginez si Paul était retourné plus tard voir les chrétiens de Galate et qu'il leur avait dit, « Vous vous rappelez ce que je vous ai dit quand je vous ai écrit une lettre, cette lettre, il y a plusieurs... je vous avais écrit... quand je vous ai écrit cette lettre il y a quelques années, eh bien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai reçu une nouvelle révélation du Seigneur. Il y a certaines choses qui doivent être enlevées dans la lettre et d'autres qui doivent être ajoutées. » Paul dit, « Ne m'écoutez même pas. » ni même un ange qui vous dirait venir du ciel. Le message de l'Évangile, frères et sœurs, il est coulé dans le béton une fois pour toutes. Amen! Amen! Il n'y a pas de nouvelle révélation. Déjà que ça nous prend plus qu'une vie pour la lire et pour la comprendre, vous imaginez s'il faut en rajouter une couche à tous les siècles. La Bible, elle est complète. Pourquoi elle est complète? Parce qu'on a tout ce qu'il nous faut pour savoir comment recevoir le pardon de nos péchés, être délivré de la condamnation, recevoir la vie éternelle, attendre le retour de Jésus-Christ et de savoir qu'on devient des héritiers du royaume de Dieu, qu'on va régner avec lui pour l'éternité sur cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux. Ça suffit, ça, hein? C'est suffisant. Ça me fait rire. Il y a des chrétiens qui ont de la difficulté à lire leur Bible, mais qui courent dans les bibliothèques pour trouver l'Apocalypse de Pierre, l'Évangile de Pierre et tous les autres livres qui n'ont pas été acceptés dans la Bible. Ils courent après pour essayer de mieux comprendre la Bible. C'est le diable. Écoutez, si l'Église, au début, au 3e siècle, a décidé de mettre ces livres-là de côté, c'est parce que toutes les Églises réunies lors d'un concile ont reconnu que ces paroles, que ces lettres-là n'étaient pas conformes aux écrits bibliques et que c'était le malin qui essayait de faire entrer ça dans la parole. On a suffisamment, on a tout ce qu'il nous faut, frères et sœurs, pour vivre une vie dans la paix et dans la joie. De plus en plus de gens ont cette idée que l'Évangile change avec son temps, que le message doit s'adapter avec son époque, parce que nous vivons une nouvelle ère. Frères et sœurs, il faut faire très, très attention avec les nouvelles versions de la Bible. Très attention. Soyons prudents. Je le répète souvent aux études bibliques. On ne travaille jamais avec la français courant tout seul. On travaille en français, on n'est pas gâté. Darby est très, très proche de la version biblique, grecque et hébreu. Et on travaille avec une Louis II. Mais jamais uniquement avec la français courant ou les nouvelles versions. On a évacué des mots importants dans les nouvelles versions. Dans la français courant, le mot « repentance » est enlevé. On dit « changer de comportement ». Mais regardez l'impact. Si j'essaie de changer de comportement, les religieux font ça toute leur vie, essayer de changer de comportement. Mais ça ne correspond pas au mot grec de « repentance ». La repentance, c'est d'abord un changement de cœur qui va amener un changement de comportement. Et là, le miracle va se produire, c'est le miracle de la nouvelle naissance. C'est une conversion. Alors, faisons attention. Je ne suis pas en train de critiquer la français courant. Je suis simplement en train de vous rappeler que la français courant, ce n'est pas une Bible d'étude. Que les nouvelles versions, faisons attention, prenons des vieilles versions, regardons, comparons quand on fait une étude de la parole de Dieu. Écoutez ce que Paul est en train de dire ici, dans ses passages. Il dit, ce n'est pas le messager qui valide le message. C'est le message qui valide le messager. Pourquoi je vous demande d'amener vos Bibles ici? Moi, je peux, à un moment donné, complètement dérailler un dimanche. Hein? Et vous avez le droit de me reprendre. Vous avez le droit de me reprendre, pas en fonction de ce que vous pensez, pas en fonction de votre valeur, pas en fonction de votre jugement. Vous avez le droit de me reprendre à partir de la parole de Dieu. Je suis redevable, moi, dans mon enseignement. Et c'est important. C'est important que vous apportiez votre parole pour vérifier ce que le prédicateur en avant vous dit est conforme à la parole de Dieu. Et s'il y a un point que vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, après le culte, de venir me trouver et dire, écoute, pasteur, t'as dit ça, mais moi, je suis plus ou moins d'accord. La première chose que je vais lui dire, c'est sur quel verset biblique tu te bases pour me dire que tu n'es pas d'accord. C'est avec des versets, hein? Quand le Seigneur, il dit à travers l'apôtre Paul dans Corinthiens que le chrétien juge de tout, hein, parce que souvent, on entend dire, on n'a pas le droit de juger. Pas le droit de juger. Oui, vous avez le droit de juger. Bibliquement parlant, vous avez le droit de juger. C'est marqué dans Corinthiens. Paul, il dit, le chrétien juge de tout. Ça veut dire quoi? Il ne juge pas à partir de ce qu'il pense, il juge à partir de la parole de Dieu. Et si Dieu est infaillible, si Dieu ne se trompe jamais, s'il juge à partir des Écritures, il ne peut pas se tromper, il cite les Écritures. On cite les Écritures. Et c'est pour ça que le chrétien peut juger de tout. Il a reçu la lumière. Il a une connaissance de la vérité. S'il voit son frère baigné dans le péché, il n'est pas là pour le condamner. Il va voir son frère et dit, écoute mon frère, je veux simplement te rappeler que la parole dit ceci. La parole dit cela. Pas, c'est, écoute, je pense que tu fais plus ou moins bien. Ça, écoutez, son jugement, il vaut le mien. Son opinion, elle vaut le mien. C'est la parole de Dieu, elle est infaillible. Amen. Si un homme se tient devant moi, peu importe sa corpulence, peu importe son éloquence, peu importe où il a fait ses études de théologie, peu importe sa force de persuasion, s'il ne prêche pas l'Évangile de Jésus-Christ, Paul dit c'est un faux docteur et la colère de Dieu demeure sur lui. En ce qui concerne l'origine de l'Évangile, Paul dit, je n'ai pas reçu ça des hommes, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, Dieu en Jésus-Christ qui me l'a révélé. Troisièmement, Galates 1:7. Comment avons-nous entendu cet Évangile? D'où vient-il? Il nous vient de Jésus, dit Paul, qui a né le commencement et la fin. Regardez au verset 7. Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'Évangile du Christ. Comment Jésus nous a-t-il rachetés? En se donnant lui-même pour nos péchés. Relisons les versets 3 à 5. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Pourquoi Jésus devait-il se donner pour nous? Afin de nous délivrer, je le répète, de ce monde présent et mauvais, c'est Paul qui le dit, selon la volonté de notre Dieu le Père. Afin de nous délivrer, en bon français courant, de ce monde présent et mauvais, parce que c'est ce que Dieu voulait. C'est ça en bon français. L'Évangile que je prêche, dit Paul, c'est le pardon des péchés, la délivrance du péché qui a été obtenue avec le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Évangile de la croix. C'est l'Évangile qui parle de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection de Jésus-Christ. C'est une Évangile victorieuse. Et c'est pour ça que Jésus n'est plus sur la croix. C'est pas un crucifix qu'on doit mettre dans les églises, c'est une croix. Jésus mort sur la croix, qui reste crucifié sur la croix, c'est un Jésus qui laisse sous-entendre que la mort l'a vaincu. La croix, elle est vide. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une résurrection un jour. Et il y a un matin où il s'est réveillé. Il y a un matin qu'il s'est été ramené de la mort à la vie, transformé dans un corps glorifié, donnant ainsi l'espérance à tous ceux qui croyaient en lui, qu'un jour, nous serions revêtus du même corps que Jésus a revêtu le dimanche matin, lors de la Pâque. Frères et sœurs, quelle espérance pour nous! C'est extraordinaire! Et vous savez, le défi du monde, c'est de nous faire oublier qu'un jour on va mourir. Quand j'ai été traité pour mon cancer, mon cancérologue, il m'a raconté quelque chose. Il m'a dit, écoute, je viens de traiter un gars, là, il y a 83 ans. Ça fait des mois et des mois qu'on le traite avec de la chimio. Et là, quand on lui donne maintenant des traitements de chimio, il n'y a plus aucune cellule cancéreuse qui est détruite. Alors il dit, je l'ai rencontré, je lui ai dit, écoutez monsieur, on va arrêter les traitements parce que votre cancer s'est installé en vous. Il a dit ça différemment, il a dit, votre cancer a élu domicile dans votre corps, on ne peut plus rien faire. Et là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit? Hey, c'est pas possible, hein? Moi, je veux vivre encore. Imaginez-vous toutes les années que j'ai devant moi. J'ai dit, monsieur, vous avez 83 ans. Vous n'avez jamais pensé que vous mourriez un jour? Non, la mort, c'est pas pour moi, hein? Moi, je le repousse le plus loin possible. Et finalement, le défi du monde, frères et sœurs, c'est d'amuser les gens, de les distraire. Parce que la vie est tellement ennuyeuse et tellement morne qu'on les lance dans la danse, qu'on les lance dans la télé-réalité, qu'on les lance dans les sports, qu'on les lance dans tout, dans le seul but de leur faire oublier qu'un jour, la mort va, ils vont mourir. Et pourtant, la mort est comme une faucheuse, elle vient jour. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Les bébés meurent, les enfants meurent, des adultes meurent, des personnes âgées meurent. Et souvent, la plupart du temps, il n'y a pas grand monde qui meurt en santé. La mort vient nous chercher. Et la parole, elle est claire. Des gens qui sont perdus pour l'éternité, c'est triste à mourir, quoi. Et dans sa grâce, Dieu a donné à l'Église, à ceux qui lui appartiennent, ce message qui vient des cieux, ce message qui nous a été donné d'en haut et qui annonce la victoire en Jésus-Christ sur la mort. Est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui dans les Églises, plusieurs personnes ne sont pas convaincues d'être nées de nouveau? Parce qu'elles n'ont jamais été confrontées ni amenées à rencontrer personnellement Jésus-Christ. Elles ont adhéré à une croyance, mais pas à Christ. Elles ont adhéré à une cause, mais pas à Christ. Elles ont adopté un code de conduite, mais pas Christ. Elles ont découvert une église, mais pas Christ. Mes amis, est-ce que vous connaissez tous ici ce matin Jésus-Christ de manière personnelle? Rome n'était pas vraiment un empire qui cherchait à détruire les religions lorsque les Romains remportaient une victoire sur l'ennemi. Ils ramenaient les dieux à Rome et permettait ainsi aux gens de pratiquer une sorte de syncrétisme qui regroupait toutes les religions du monde. À l'époque où Paul a écrit cette lettre, les païens avaient beaucoup de dieux. On dit plus de 10 000 à Rome. Chers amis, vous ne pouvez pas faire cela avec Jésus-Christ. Pardon, c'est Jésus et seulement Jésus. Rappelez-vous ceci, Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes quelqu'un d'autre par lequel nous pourrions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Il est celui qui a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, personne ne vient au Père sans passer par moi. Je suis la porte. Je suis le chemin. Je suis le seul moyen. » Il ne parle pas de religion, hein? Il parle d'une personne. Et la question qu'on pourrait se poser ce matin, est-ce que Jésus pour vous se limite à être un nom? Ou si Jésus pour vous est une personne vivante qui vit en vous par son esprit? Plusieurs chrétiens à l'époque de l'apôtre Paul auraient pu sauver leur vie s'ils avaient simplement accepté le fait que Jésus était un des chemins pour aller au ciel. Il suffisait simplement de dire « Oui, Jésus est Seigneur, mais César est Seigneur, est le Seigneur. » Mes amis, Jésus-Christ est le Seigneur, il a sacrifié sa vie pour nous sauver. Regardons encore une fois les versets 3 et 4. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même, pour nos péchés, afin de nous délivrer de ce monde présent, de ce monde dans lequel vous vivez, et qui est mauvais parce que c'est le mauvais qui le dirige. » C'est ce qu'il dit, hein? C'est pas moi qui l'ai dit. « Selon la volonté de Dieu notre Père. » Dieu a voulu que Jésus vienne sur la terre pour nous sauver. Si tel est le cas, frères et sœurs, ne savez-vous pas que s'il y avait un autre moyen pour nous d'être sauvés sans que Jésus-Christ meure sur la croix, vous n'avez pas l'impression que Dieu aurait sûrement choisi un autre moyen? Est-ce que vous ne pensez pas que Dieu se serait épargné la tristesse de voir son Fils être rejeté par sa créature, être massacré, subir le martyre? Est-ce que vous pensez que s'il n'y avait pas un autre moyen de nous sauver, Dieu n'aurait pas sauté sur ce moyen? Soyons raisonnables. Allez-vous me dire que Dieu aurait permis à son Fils bien-aimé de subir une mort aussi atroce et aussi horrible sur la croix, alors qu'il existait un autre moyen pour nous sauver? Si tel est le cas, frères et sœurs, je n'aurais aucun respect pour ce Dieu qui aurait permis à son Fils de mourir ainsi, alors qu'il existait d'autres possibilités. Je vous le dis, si Jésus-Christ n'est pas le seul chemin, le seul moyen, Dieu a fait une terrible gaffe au calvaire. Christ est le seul moyen, Christ est le seul chemin. Nous ne devons pas nous étonner qu'il soit écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Paul dit, « Je n'ai pas honte d'annoncer l'Évangile, il est en effet la puissance dont Dieu se sert pour sauver quiconque croit. » C'est la puissance. Amen. Elle est puissante. Elle vous a agi puissamment dans vos vies, elle vous a transformé, elle vous a permis de passer de la nouvelle naissance, de mourir spirituellement, vous étiez mort spirituellement, et de vous faire revivre en Jésus-Christ. Frères et sœurs, Dieu lui-même est impuissant à sauver quelqu'un en dehors de l'Évangile de Jésus-Christ. Dieu est impuissant à sauver quelqu'un en dehors de l'Évangile de Jésus-Christ. Amen! Parce que Dieu est un Dieu saint, que le péché doit être expié, que quelqu'un doit payer pour notre péché. Pas un coupable, un innocent pour les coupables. Voilà pourquoi Satan a combattu ce message qui nous vient de Dieu et qui nous dit que nous avons été rachetés à travers le sang précieux de Jésus-Christ. Quatrième point et dernier point. Galates chapitre 1, verset 6. L'Évangile nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Remarquez ce que Paul dit au verset 6, il appelle cet évangile l'évangile de grâce. L'évangile de grâce. Frères et sœurs, dans Jean chapitre 1, Jean nous dit, la loi nous a été donnée par Moïse. Dans Romains, Paul nous dit, la loi, elle a été donnée simplement pour faire réaliser aux hommes qu'ils sont des pécheurs. La loi, elle est déprimante pour une seule chose, c'est qu'elle ne nous donne pas le moyen d'être sauvés. La loi, elle est déprimante, pourquoi? Parce qu'elle ne nous donne pas le moyen de recevoir le pardon définitif de nos péchés. La loi, elle était donnée aux hommes uniquement pour faire savoir qu'ils sont des pécheurs. Et qu'est-ce qu'il dit, Jean? Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. L'évangile de grâce. La loi nous condamne. Jésus vient nous donner la solution pour effacer cette condamnation qui pèse sur tous les êtres humains. Il est la vérité, il vient nous annoncer la vérité. Amen. La grâce, frères et sœurs, c'est ce qui amène Dieu à aimer des gens comme vous et moi, des méchants,
des pécheurs par nature et indignes de recevoir quoi que ce soit de lui. Remercions-le pour la grâce qu'il nous a accordée d'entendre l'Évangile. Pourquoi appelons-nous cela la grâce de Dieu? Parce que dans sa grâce, Dieu est à la recherche des pécheurs. Regardez au verset 15 ce que Paul dit. Paul parle de la grâce qu'il nous a cherchée. Il dit, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce. » Frères et sœurs, est-ce que vous réalisez que vous avez été appelés par la grâce de Dieu? Frères et sœurs, lorsque Paul était sauvé, il ne cherchait pas Jésus. Non, il cherchait plutôt à emprisonner les chrétiens, à séparer les enfants de leur mère. Lorsque Paul a été sauvé, il ne cherchait pas Jésus. C'est Jésus qui le cherchait. Et Jésus l'attendait sur le chemin de Damas. Il arrive qu'on entend des gens dire « Je cherchais le Seigneur depuis si longtemps. » Eh bien, mes amis, une des raisons pour lesquelles vous cherchez Dieu, c'est parce qu'il a placé dans votre cœur la pensée de l'éternité. Et aussi parce que vous avez entendu l'Évangile de grâce. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est parce que vous avez entendu l'Évangile de grâce, à travers lequel Dieu vous cherchait. Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Frères et sœurs, si Dieu attendait que les pécheurs se tournent vers lui, il attendra encore. Il a envoyé son Fils venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus vient vers nous et dit, « venez à moi, je suis venu vers vous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, qui êtes déprimés des mauvaises expériences que vous avez vécues, des blessures qui vous écrasent, qui vous étouffent, qui vous découragent. Bien que nous ayons tourné le dos à Dieu, Dieu nous aime, il nous cherche, il nous suit, il vient à notre rencontre. Quel Dieu merveilleux! C'est la bonne nouvelle pour nous tous. Frères et sœurs, pour Dieu, nous avons une si grande valeur qu'il a laissé mourir son propre Fils sur la croix pour qu'il expie nos péchés. Je rends grâce à Dieu parce que dans sa grâce, il cherche encore aujourd'hui à sauver ceux qui sont perdus. Amen. Et qu'il veut vous utiliser là où vous habitez, là où vous travaillez. Pourquoi appelons-nous cela encore la grâce de Dieu? Parce que dans sa grâce, Dieu veut encore sauver. Galates 1, verset 16. Paul dit au verset 16 que dans sa grâce, Dieu a décidé de lui révéler son Fils pour qu'il l'annonce lui aussi à son tour. Voici ce pharisien de Paul, circulant sur le chemin de l'enfer, qui rencontre Jésus-Christ et qui est sauvé par la grâce de Dieu et non par les bonnes œuvres qu'il a faites en tant que pharisien. Dans sa grâce, Dieu nous garantit qu'il ne nous enlèvera jamais ce salut. C'est à nous de ne pas l'abandonner. De ne pas abandonner celui qui nous a accordé la grâce de nous sauver. Si nous étions sauvés par les œuvres, nous pourrions toujours craindre que nos œuvres ne suffisent pas. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, ne l'oublions jamais. La grâce, c'est le don par lequel nous sommes sauvés. La foi, c'est le moyen d'arriver au salut. Nous ne faisons pas des œuvres pour être sauvés. Nous faisons des œuvres parce que nous sommes sauvés. Quelle différence! Rappelez-vous les moines au Moyen-Âge, avec des ceintures cloutées, qui à chaque péché qu'ils commettaient durant la journée, bien un clou de plus, et qui se faisaient des marques dans la taille, autour de la taille, pour essayer d'expier leurs péchés, et qui par une bonne œuvre essayaient d'effacer un péché. Il n'y a aucune bonne œuvre qu'on fait qui peut effacer un seul de nos péchés. Seul le sang versé à la croix par Jésus peut effacer nos péchés. Amen! Que dit Paul aux chrétiens de Galates au chapitre 3, verset 3? Comment pouvez-vous être aussi insensés? Vous avez commencé par l'Esprit de Dieu. Voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? En d'autres mots, ne réalisez-vous pas que l'Esprit qui vous a sauvé est le même qui va vous perfectionner par la grâce de Dieu à ressembler à Jésus? L'argument le plus convaincant, frères et sœurs, en faveur de l'Évangile de Christ, c'est le témoignage personnel de quelqu'un dont la vie a été changée par lui. Charles Brodlow, un incroyant déclaré, a lancé un jour un défi au pasteur Hughes de débattre sur la foi. Le pasteur Hughes, qui était responsable d'une mission à Londres, a accepté de relever le défi en mettant comme condition qu'il puisse amener 100 personnes, des hommes et des femmes, qui témoigneraient de ce qui leur est arrivé dans leur vie depuis qu'ils ont rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ces gens feraient partie de ceux qui ont vécu profondément dans le péché, certains provenant de familles pauvres, victimes de la vie dissolue de leurs parents. Le pasteur Hughes mentionna que ces gens ne partageraient pas seulement leur conversion, mais qu'ils seraient prêts à se soumettre à un contre-interrogatoire face à quiconque douterait de leur histoire. De plus, le pasteur invita son opposant, le non-croyant, à amener un groupe de non-croyants qui pourrait raconter comment ils sont sortis dans la vie à cause de leur manque de foi. Lorsque le jour fixé arriva, le pasteur se présenta accompagné de 100 personnes transformées, mais son opposant ne s'est jamais présenté. Le résultat, la réunion s'est transformée en une période de témoignage et plusieurs personnes qui s'étaient rassemblées pour écouter le débat se convertirent à Jésus-Christ. Chers amis, Jésus est un sauveur merveilleux. Rendons grâce à Dieu pour l'exemple qu'il nous a laissé. Rendons grâce à Dieu pour son enseignement, car il demeure un sauveur parfait. Amen. Paul écrit, « Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces de bien, afin que, possédant toujours tout ce qui vous est nécessaire à tous vos besoins, il vous reste encore tout ce qu'il vous faut pour pratiquer toutes les bonnes œuvres que vous voulez accomplir. » Frères et sœurs, j'espère que vous êtes convaincus ce matin, la grâce de Dieu ne nous fera jamais, jamais défaut. Jamais. Frères et sœurs, j'ai traversé des moments difficiles dans le passé et la grâce de Dieu ne m'a jamais fait défaut. Jamais. Je peux dire que jamais Dieu a permis qu'aucune épreuve que je subis, que je vive, eh bien, soit au-delà de mes forces. Mais dans l'épreuve, il a aussi trouvé le moyen de m'en sortir afin que je puisse la supporter. Et c'en est de même pour vous, vous pourriez donner le même témoignage que je vous donne ce matin. Remercions Dieu parce que non seulement sa grâce ne nous fera jamais défaut, mais parce que sa grâce nous suivra dans l'éternité. Et dans l'éternité, on va avoir besoin de la grâce de Dieu. Vous imaginez si dans l'éternité, on est tous là dans des corps glorifiés et que Dieu décide un millionième de seconde de ne plus être gracieux. On est tous condamnés. Non seulement la grâce de Dieu ne nous fera jamais défaut, mais la grâce de Dieu, elle est éternelle. On peut être certain que non seulement il ne nous rejettera pas ici, mais il ne nous rejettera pas non plus dans l'éternité. Lisez le verset 5. « À lui, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen, dit l'apôtre Paul. » Paul dit que dans les siècles à venir, nous allons être les représentants de la grâce de Dieu. Et quand vous serez promus dans la gloire, vous le verrez lui. Et il vous dira en vous regardant, frères et sœurs, « Voilà Hélène, elle est ici à cause de ma grâce. Voilà Janine. » Elle est ici, dans le ciel, à cause de ma grâce. Voilà Jean. Il est ici, dans le ciel, à cause de ma grâce. Pas en fonction de ce qu'on a fait, mais à cause de la grâce de Dieu. Pas extraordinaire, ça. Il n'aura pas à craindre le châtiment. Il l'a reçu. Et dans sa grâce, nous sommes sauvés. Et la parole dit à travers l'apôtre Paul qu'il nous en est entraîné dans le cortège de la victoire remportée par Christ à la croix. C'est comme une grande parade sur une grande rue aux États-Unis. Hein. Ils ont le don de faire les choses en grand. Donc, vous ne savez pas quand la parade va commencer, vous ne savez pas où ce qu'elle va se terminer. Hein. Bien, vous voyez tous les chars allégoriques qui se suivent un derrière l'autre. Vous appelez ça des chars allégoriques, c'est vrai? Non? Les tracteurs qui se promènent avec des charrettes, là. Comment vous appelez ça ici? Au Canada, aux États-Unis, on appelle ça un char allégorique. Voilà. C'est comme conduire des chars au Québec. Hein? Alors, vous voyez, ça a une longueur, là, c'est comme un train qui transporte une centaine de wagons. Hein? Eh bien, quand Paul dit qu'on est entraîné dans le cortège de victoire de Jésus-Christ, c'est comme ça. On est tous à la queue de l'une. On est tous là, tous les sauvés, tous ceux qui ont accepté Jésus. Et on suit. Et le premier qui nous conduit, c'est lui. C'est lui qui ouvre les portes. Il est la porte, c'est lui qui nous ouvre les portes. Et dans Apocalypse 3, qu'est-ce qu'il dit? Voici, j'ai ouvert une porte que personne ne peut fermer. Personne. Sauf lui. Et là, on peut se rappeler la parabole des 10 vierges. Satan a combattu cet évangile. Dieu nous l'a fait connaître. Jésus en a payé le prix. Dieu a manifesté sa grâce à Paul qui l'a annoncé. Et nous sommes appelés à nous tenir debout pour ce vieil évangile de Jésus-Christ. Il est vieux, mais il agit encore. Et il fait du sang nouveau. Avec les personnes déprimées, avec les personnes découragées, avec les pécheurs. Rendons grâce à Dieu pour l'Évangile. quelle est la puissance dont Dieu se sert pour sauver quiconque croit. Et frères et sœurs, en terminant, les effets de la grâce de Dieu, c'est qu'elle conduit à la paix. Je reçois la paix de Dieu à travers le message de la grâce. Et je suis en paix avec Dieu. C'est merveilleux. Merveilleux. Et je reçois une joie, comme Paul dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, une joie qu'aucune personne, une joie qui surpasse tout ce que l'homme peut comprendre. Frères et sœurs, on a un Dieu extraordinaire, on a un Sauveur merveilleux. Qu'on puisse se rappeler qu'on est entraîné, appelé à être entraîné dans son cortège de victoire. Et rappelons-nous que l'Évangile, le vrai Évangile de Jésus-Christ, c'est celui qui parle de la croix, qui sauve. Amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter un dernier cantique. Le cantique 270 dans les ailes de la foi.